Comment j'ai transformé ma passion pour la psychologie en carrière épanouissante tout en travaillant à la SNCF. Vous avez une passion qui vous habite depuis toujours et vous rêvez d'en faire une carrière épanouissante? Moi aussi. Je suis salariée à la SNCF depuis 40 ans, mais je n'ai jamais cessé de nourrir ma passion pour la psychologie. Cet article fait partie de l'événement Comment transformer sa passion en carrière épanouissante, organisé par Lucille du blog Passion Samba. Mon article préféré, c'est Comment avoir plus confiance en soi avec la samba brésilienne, car je trouve que la danse est un excellent moyen de se reconnecter à son corps, de lâcher prise sur le jugement et d'améliorer sa posture. D'ailleurs, on sait désormais que se tenir droit, les épaules en arrière, joue un rôle considérable dans la confiance et l'estime de soi. Si vous souhaitez lire l'article, je vous invite à aller sur le site Passion Samba de Lucille Coquelin. Ceci étant dit, si vous avez envie de suivre vos rêves, je vais vous partager mon parcours et les étapes qui m'ont permis de créer deux activités de coaching et comment cela a transformé ma vie dans un instant. Mais auparavant, pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Patricia Kovac, votre coach du jour. Vous êtes sur Blog de Cadre, le blog dédié aux femmes cadres désireuses de découvrir des trucs et astuces pour une vie plus épanouie, tant au travail que dans la vie personnelle. Ici, j'aborde des sujets variés, allant de la gestion du temps et de l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle à la gestion des émotions, en particulier la peur du regard des autres qui nous empêche tellement d'oser nous mettre en avant. Chaque article est conçu pour vous inspirer, vous outiller et vous accompagner dans votre recherche d'une vie professionnelle enrichissante et d'une vie personnelle épanouie. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de mes prochains articles chaque premier mardi du mois. Mais revenons à l'essentiel. La psychologie, une passion depuis l'adolescence. Tout a commencé à 15 ans. Cette année-là, j'avais fait les vendanges pour la première fois et avec l'argent gagné, je me suis abonnée à Psychologie Magazine. À cette époque, j'étais fascinée par le comportement humain, mais aussi très mal dans ma peau. Timide, toujours en train de me demander ce que les autres pensaient de moi, j'avais peur du jugement et du regard des autres. La psychologie est devenue un moyen pour moi de mieux comprendre tout ça, de chercher des réponses. Je n'ai jamais cessé d'y consacrer une partie de mon temps libre, à lire des articles et des livres sur la compréhension de soi et des autres. Oui, mais voilà, comme beaucoup, j'ai fini par suivre une voie professionnelle bien différente, loin de ma passion initiale. Et le pire, ce n'était même pas parce que je ne savais pas quoi faire dans ce domaine. Le métier de psychologue existait déjà. Mais au moment de mes réflexions, les conseillers d'orientation ne m'ont jamais aidé à identifier cette option. Ne sachant pas quoi faire dans la vie, j'ai passé des concours pour entrer dans l'administration, et voilà comment j'ai atterri à la SNCF. Le tournant, ma formation en coaching. En 2010, mon poste axé sur les systèmes d'information me laissait insatisfaite. J'étais devant un écran la majorité du temps, sans véritable contact humain. Le manque de relationnel était criant. C'est à ce moment que j'ai pris une décision importante, me former au coaching. Cette formation a marqué le début d'un tournant décisif dans ma vie professionnelle. Une fois certifiée, en 2010, j'ai créé mon auto-entreprise pour accompagner des personnes sur des thématiques comme l'orientation professionnelle, la confiance en soi, la gestion des émotions et la communication assertive. Quelques temps plus tard, j'ai rejoint la Fondation SNCF pour accompagner des jeunes et les aider à prendre confiance en eux. Bien que ce soit une expérience enrichissante, elle ne correspondait pas pleinement à ce que je recherchais. J'ai alors choisi de franchir un cap supplémentaire en devenant coach interne à la SNCF, un rôle que j'exerce depuis maintenant 7 ans. J'accompagne des cadres en entreprise sur des sujets professionnels comme la confiance en soi et l'estime de soi, le lâcher prise, la prise de parole en public, la prise de risque, la gestion des émotions, etc. Deux activités de coaching, deux défis d'organisation. Avoir deux activités de coaching en plus de son activité salariée n'est pas une mince affaire. En tant que coach interne à la SNCF, je m'organise pour dégager le temps nécessaire et proposer un accompagnement de qualité. En revanche, pour mon activité de coaching en auto-entreprise, c'est plus compliqué. Mon emploi du temps de salarié me laisse peu de temps pour développer cette activité extérieure, mais je persévère car l'accompagnement des cadres me tient vraiment à cœur. C'est pourquoi, en 2017, j'ai créé ce blog sur lequel je publie un article tous les mois. Et actuellement, je développe une formation pour accompagner des cadres en entreprise qui ont peur du jugement et manquent de confiance en eux, à se libérer du regard des autres et oser être soi. Le contenu des modules qui seront proposés en ligne sont quasiment terminés. Il me reste à mettre en forme et tourner les vidéos. À l'heure où j'écris, je suis en négociation avec le réseau SNCF Mixité pour tester le format. Des modules en ligne, des séances en groupe en distanciel, des séances individuelles pour dépasser les blocages sur la peur du regard des autres. Les bénéfices inattendus du coaching. Outre les magnifiques rencontres humaines que j'ai faites en chemin, l'impact de cette aventure dépasse le cadre professionnel. J'ai non seulement trouvé un équilibre entre mon travail technique et mes activités relationnelles, mais j'ai aussi appris à mieux me connaître. Le coaching m'a apporté des clés pour comprendre les autres et surtout moi-même. Je suis devenue plus à l'écoute de mes émotions et de celles des personnes que j'accompagne. D'ailleurs, ces compétences m'ont permis d'éviter deux périodes de dépression. La première fois, c'était lors d'un déménagement du service, mal géré en interne à la SNCF, qui m'a profondément affectée. Heureusement, lors d'une formation, j'avais découvert la courbe du changement seulement 2 jours avant l'événement. Grâce à cette découverte toute fraîche, j'ai pu identifier mes émotions et comprendre immédiatement que je traversais une étape difficile, mais normale. Cela m'a permis de gérer la situation sans sombrer. La deuxième fois, c'était encore plus tendu. J'étais déjà mal parce que les RH me poussaient à quitter l'entreprise contre ma volonté. Et là, mon manager commence à me mettre une pression de dingue juste parce qu'il m'avait vu 2 fois à la cafétéria. Mais au lieu de craquer, j'ai pris du recul. Grâce à l'énéagramme, j'avais vite capté son profil de battant. Comme il était lui-même sous pression et risquait de perdre son poste, il a surréagi en me mettant une pression excessive. Ce que beaucoup auraient pris pour du harcèlement, je l'ai compris comme une réaction à son propre stress. L'énéagramme m'a donné les clés pour comprendre la situation et l'EFT m'a permis d'accueillir mes émotions, de les traiter et de prendre du recul sans me laisser submerger. Leçons et perspectives. Ce que j'ai appris, me concernant, j'ai découvert que je suis une personne fiable, impliquée et capable de surmonter des défis. J'ai compris pourquoi oser se mettre en avant est un véritable défi pour moi. J'ai appris à mieux vivre mes émotions, à les accepter et à écouter leurs messages. J'ai découvert mes forces, comme par exemple la capacité à identifier les points de blocage et à trouver des solutions. Aujourd'hui, je suis convaincue que ces compétences devraient être enseignées dès l'école primaire. En effet, certaines études estiment qu'entre 10 et 15% de la population générale a du mal à identifier ses émotions, tandis que d'autres indiquent un pourcentage encore plus élevé, de 30 à 40%, pourrait rencontrer des difficultés à les reconnaître clairement dans certains contextes. Or, les émotions sont là pour nous avertir de situations importantes à traiter. Il est donc essentiel d'apprendre à les identifier dès le plus jeune âge. Elles permettent non seulement de mieux comprendre les autres, mais aussi de gérer les situations difficiles dans la vie professionnelle, personnelle et familiale. En conclusion, transformer sa passion en une carrière épanouissante ne se fait pas en un claquement de doigts. Cela demande des efforts, de l'organisation et surtout beaucoup de réflexion et de persévérance. Si mon parcours vous inspire, je vous encourage à poursuivre vos rêves, même si cela implique d'avancer petit à petit, un pas après l'autre. Comme le disait Confucius, un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Si ces sujets vous intéressent, vous trouverez d'autres articles comme « Comment bien rater sa vie », « Job crafting » et « Si vous construisiez votre fiche de poste » ou encore « Trouver un job, 8 clés à succès pour réseauter » sur mon blog « Blog de cadre ». Maintenant c'est à vous. Et vous, avez-vous déjà tenté de transformer votre passion en une carrière épanouissante? Quels obstacles avez-vous rencontrés en cours de route? Et quelles petites victoires vous ont permis d'avancer? Partagez vos expériences, vos réflexions et vos leçons apprises dans les commentaires. J'ai hâte de découvrir vos histoires. Blog de cadre est également là pour vous accompagner dans votre quête de développement personnel et professionnel. Pour plus d'informations ou pour un accompagnement personnalisé, prenez contact avec moi à partir de la page contact de mon blog ou sur LinkedIn. Merci d'avoir écouté ce podcast de Blog de cadre. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partagez ce podcast avec vos amis. Votre soutien m'encourage à continuer à produire du contenu de qualité. Alors rendez-vous le premier mardi du mois prochain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao !